Dans le contexte de notre monde moderne, parler de la foi, c'est donner l'impression d'être resté embourbé dans un passé superstitieux. C'est la triste constatation que de nombreux chrétiens ont faite. La plupart des gens se sentent mal à l'aise lorsqu'on leur parle de la foi, de leur foi. S'ils avaient la foi, ils en parleraient avec joie, avec conviction. Et ils ne se contenteraient pas de parler cette foi, mais ils la vivraient surtout, pour ne pas qu'elle meure. L'apôtre Jacques l'a écrit, « Une foi qui n'est pas agissante est une foi morte. » Paradoxalement, lorsqu'on interroge la plupart des gens sur leur foi, ils parlent presque tous de leurs doutes ou de leur incrédulité. Et si vous le voulez, c'est aussi ce que nous ferons aujourd'hui. Parlons de nos doutes, c'est-à-dire de ces sombres incertitudes qui nous obligent à balancer entre le oui et le non, entre l'action et le refus de l'action. Et disons-le, entre la foi et l'incroyance. La Bible aborde aussi ce sujet par des exemples destinés à nous éclairer. Mais avant d'examiner les Écritures, examinons-nous objectivement. Quelle est la nature de nos doutes? Quelle est la forme de nos incertitudes? Doutons-nous de Dieu parce que nous ne l'avons jamais vu? Doutons-nous de lui à cause des guerres, du péché et du mal en général, qui à notre avis ne devrait pas exister s'il y avait un Dieu? Ou doutons-nous simplement et banalement parce que nous avons perdu confiance en tout et en tous et que cette existence sans idéal nous a aigris? Dans tous les cas, douter, c'est manquer de confiance. Et ce manque de confiance, lorsqu'il s'agit de Dieu, est une preuve certaine qu'on ne le connaît pas, ou ce qui est pire, qu'on le connaît mal. Or, il n'existe qu'une seule manière de connaître Dieu. C'est par le moyen de la Bible qui est appelée à juste titre la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, dans le respect et dans la prière, je ne m'étonne plus qu'il y ait des troubles et des guerres parmi les hommes. Je n'en accuse plus Dieu, parce que je comprends que ce sont les hommes qui ont mal usé de leur liberté pour convoiter et pour tuer. D'où viennent les guerres? D'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et ne possédez pas, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir, alors vous bataillez et vous faites la guerre. C'est ainsi que Dieu parle par la bouche de l'apôtre Jacques. La majorité des maux de la terre proviennent ainsi des hommes, et les hommes ont la lâcheté d'accuser le silence de Dieu au lieu de s'accuser eux-mêmes. En lisant la parole de Dieu, je ne m'étonne plus qu'il survienne des épreuves, parfois déchirantes, dans la vie de ceux que j'aime et que je respecte ainsi que dans la mienne. Car Dieu m'enseigne à discerner à travers chaque épreuve le visage de sa volonté à mon égard. L'épreuve est en quelque sorte un message de Dieu pour l'homme. La souffrance qui m'étreint, la douleur que je ressens, le mal qu'on me fait ou celui qu'on dit de moi injustement, c'est un test de ma foi. Il est écrit, c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il est vrai qu'avec chaque épreuve surgit la tentation de me raidir et de me révolter comme devant une injustice. Lorsque l'épreuve est grande, ma révolte voudrait éclater contre le monde entier et contre Dieu. Mais ici encore, une promesse rassurante nous oriente sainement, car il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ainsi, nous pouvons dire que la Bible est la source d'une sûre connaissance de Dieu, de son Fils, de sa volonté, de ses promesses et de ses avertissements. L'apôtre Paul a d'ailleurs écrit que la foi naît de la prédication et la parole de Christ est l'instrument de cette prédication. Au milieu des épreuves les plus sombres, lorsque tout semble nous abandonner, à l'heure où même la foi semble un moyen dérisoire de consolation, nous sommes encore les victimes d'une illusion par notre ignorance, car Dieu n'abandonne pas sa créature. C'est elle qui s'éloigne de lui. Le prophète Ésaïe a su exprimer ce cri de désespoir de l'homme ainsi que la réponse que Dieu fait à ce cri. Dans le passage que nous allons citer, c'est Jérusalem qui pleure et qui se lamente parce qu'elle est dévastée. Le temple est profané, les jeunes gens sont tués. Et le cri de Jérusalem, c'est le cri de chaque homme au plus profond du désespoir. L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. N'entend-on pas ici le cri du Fils de l'homme agonisant sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Dieu répond, et sa parole est valable pour tous les hommes en tout temps. Une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit ? Cesse-t-elle de chérir le fils de ses entrailles ? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi, je ne t'oublierai jamais. Dans cette merveilleuse confession d'amour qui nous vient de Dieu, car l'homme eût été incapable de l'inventer, l'âme la plus abattue peut retrouver son équilibre. « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'accepte. Au jour de la détresse, tu es mon refuge et mon appui, car je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. » Dans les moments les plus sombres de son existence, l'apôtre Paul s'accrochait aux choses sûres, aux certitudes éternelles. Il pouvait dire « J'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Plus tard, presque à l'heure de la mort, il dira encore « Je sais en qui j'ai cru ». Malheureusement, les hommes ne savent pas en qui ils doivent croire, ni comment ils peuvent croire. Et cela parce qu'ils ignorent la source et la nourriture de la foi, c'est-à-dire la parole de Dieu. On constate dans leur vie le règne misérable des notions vagues et du doute. Les Écritures nous enseignent que notre foi peut et doit être centrée sur la personne du Christ, et plus précisément sur sa résurrection. Poussé par l'Esprit, l'apôtre Paul écrit « Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. » La résurrection est par conséquent l'événement clé du christianisme. C'est le fondement même de cette religion. C'est la base de la foi. Or, cette base est-elle solide? Pouvons-nous nous y aventurer avec confiance ou devons-nous douter de sa solidité? Dans un monde de machines électroniques et d'exploration spatiale, dans un monde où la science est presque déifiée, nous avons grand-peine à concevoir qu'un cadavre soit revenu à la vie. Notre réaction d'homme moderne est celle de Thomas. « Si je ne le vois de mes yeux, et si je ne le touche de mes mains, je ne croirai pas. » Cette exigence de Thomas nous paraît toute légitime. Mais en cela, nous ne nous rendons pas compte que, comme Thomas, nous confondons foi et connaissance, espérance et réalité. L'apôtre Paul dit à cet égard, « C'est en espérance que vous êtes sauvés. » Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Le christianisme est un système de foi. C'est ce qui fait sa force et sa grandeur. Il est fondé sur des faits authentiques et des faits uniques. Ils se sont produits une fois pour toutes. Notre foi, la foi chrétienne, repose donc presque uniquement sur des témoignages, sur la déposition de ceux qui ont eu le privilège de voir et d'entendre. Il en est d'ailleurs de même des nombreux faits historiques qu'on nous enseigne à l'école et auxquels nous prêtons l'assentiment de notre intellect. Là aussi, notre foi repose sur des témoignages. Pourquoi sommes-nous donc si incrédules lorsqu'on nous parle d'événements qui peuvent déterminer notre destinée éternelle? Peut-être est-ce parce que c'est trop beau pour être vrai. Nous savons bien du reste qu'il serait déraisonnable d'exiger des preuves tangibles et concrètes des événements historiques auxquels nous avons toujours cru. Jésus dit à Thomas, qui maintenant est terrassé par l'évidence et humilié, on le devine, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et nous sommes de ceux qui veulent croire sans avoir vu. Dans notre doute obstiné, nous impliquons que Dieu devrait continuer d'intervenir par des miracles, par des signes, des apparitions et des interventions personnelles et tangibles dans la vie de chaque individu. Au contraire, Jésus prie son Père céleste de donner à ses apôtres la force de témoigner fidèlement. « Ce n'est cependant pas pour eux seulement que je prie, implore-t-il, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » La foi que Dieu attend de nous n'est pas au-delà de nos forces. Elle ne heurte pas notre raison, car ces témoins, dont notre foi reçoit le témoignage, sont des hommes qui ont vu de leurs yeux, touché de leurs mains et entendu de leurs oreilles. Ils ont presque tous scellé leur témoignage dans leur sang, déclarant jusqu'à la fin, « Nous savons, nous sommes persuadés, nous avons l'assurance, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Peut-on exiger de n'importe quel témoin une déposition plus complète? Notre doute ne devient-il pas monstrueux lorsqu'il persiste ainsi jusque dans l'évocation du sang des martyrs? Notons en passant la joie de l'apôtre Paul à l'égard des chrétiens de la ville de Thessalonique, parce que, leur écrit-il, notre témoignage auprès de vous a été cru. Il y a une scène dans les évangiles que je ne puis lire sans ressentir une profonde émotion. C'est un père qui supplie Jésus de guérir son enfant. « Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant pousse un cri profondément humain, le cri de chaque croyant que tourmente l'épreuve et qu'assaille le doute, le cri d'un chrétien qui connaît ses faiblesses et qui s'accroche à la foi. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. »